Monsieur Vidard, c'est à vous, bonjour.
Merci beaucoup Laetitia Gaillet, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Prochaines infos à 15h, si tout va bien.
Oh bah, oui.
Dans les années 30, le jeune premier Henri Gara chantait « Avoir un bon copain », chanson reprise ensuite par Georges Brassens et même plus récemment par Patrick Bruel. La chanson disait, vous vous en souvenez certainement, qu'il n'y avait rien de meilleur au monde que d'avoir un bon copain. Et on peut toujours parler au présent d'ailleurs. 80 ans plus tard, avec les réseaux sociaux, tout semble avoir changé. Les liens en ligne se sont multipliés et la notion même de l'amitié a pris un nouveau visage. Internet est-il en train de bouleverser les relations sociales? Eh bien, c'est le thème de notre dossier cet après-midi avec les invités qui vont me rejoindre dans quelques minutes, la philosophe Anne Dalsuet et le sociologue Antonio Casilli. Anne Dalsuet est professeure de philosophie à Stein. Elle est l'auteure aux éditions Flammarion d'un livre qui s'appelle « T'es sur Facebook, qu'est-ce que les réseaux sociaux changent à l'amitié ?» Et puis Antonio Casilli, de son côté, est sociologue et spécialiste des réseaux sociaux et des usages du numérique. Il est également maître de conférences à Paris Tech et chercheur au Centre Edgar Morin à l'EHESS. Il est l'auteur, de son côté, d'un ouvrage « Les liaisons numériques » aux éditions du Seuil. Alors que deviennent nos amitiés justement avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'un ami dans cette culture numérique, comment le choisit-on? L'amitié 2.0 est-elle survalorisée et quels sont les dangers ou les bienfaits de ces liens particuliers? On va donc en discuter dans quelques instants. Cette émission est une rediffusion d'un dossier que nous vous avions proposé en septembre 2013. Et puis nous terminerons cette tête au carré, comme tous les jours de la semaine jusqu'au jeudi, avec le quiz scientifique de l'émission. Deux nouveaux candidats vont s'affronter dans une lutte sans merci pour répondre au maximum de questions. Violaine Ballet est aux commandes de notre tête au carré. Un dossier préparé par Anne-Cécile Perrin.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le lundi, c'est notre copain Axel Villard qui nous rejoint. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Avec dans l'actualité scientifique de cette semaine, Axel, eh bien, des nouvelles que vous avez dénichées pour nous avec cette fois-ci un projet bien étrange, celui de faire du fromage au lait de vache sans jamais traire une seule vache.
Ah, hein.
On aurait du mal à faire plus étrange que ça, hein, effectivement.
C'est pourtant bien réel Mathieu, et ça a de grandes chances de voir le jour puisque ce projet vient de récolter 37 000 dollars sur la plateforme de financement participatif Indiegogo.
Indiegogo.
Indiegogo, c'est le nom de la plateforme. Le projet s'appelle Real Vegan Cheese, un fromage vraiment végétalien. L'idée est née à San Francisco, dans la tête d'un groupe de bioactivistes, des scientifiques, mais pas seulement, loin d'être tous végétaliens ou même végétariens, qui pensent qu'on peut produire de la nourriture pour tout le monde, en quantité suffisante et sans impact pour l'environnement. Craig Rousquet est le microbiologiste de l'équipe, mais lui ne se définit pas vraiment comme ça.
Je dirais que je suis un biohacker, quelqu'un qui étudie les systèmes biologiques, leur fonctionnement, et qui les retourne dans tous les sens pour créer des choses nouvelles avec des choses meilleures ou plus durables. J'étais un activiste politique avant, j'arpentais les rues à me battre pour la justice, mais je suis arrivé à un point où il a fallu que je crée ce que je voulais voir arriver. Je suis donc passé de la rue au laboratoire pour élaborer ces choses meilleures moi-même. C'est la raison pour laquelle je participe à ce projet. C'est pour essayer de fournir une nouvelle source de nourriture durable et responsable qui n'implique pas les animaux.
Alors Axel, l'idée elle est évidemment très intéressante, mais on aimerait tous en savoir beaucoup plus. Et en particulier, comment est-ce qu'on peut faire du fromage sans vache?
Mais il suffit d'avoir du lait.
Oui, bien sûr.
Et ce lait, ils veulent le recréer grâce à des levures. Plus précisément, le reconstituer en faisant produire par des populations de levures génétiquement modifiées les caséines, des protéines qu'on trouve dans le lait. Ensuite, il leur suffira d'ajouter des graisses végétales, des sucres et de l'eau pour refaire du lait de vache qu'il faudra laisser fermenter pour faire du fromage. Écoutez encore Craig Rousquet.
Notre fromage vegan contient des protéines animales produites uniquement par des levures. Il est donc à 100% végétalien, mais il est aussi respectueux de l'environnement. Le dioxyde de carbone produit par les levures peut être récolté, donc on peut le recycler facilement, mais c'est aussi un processus très rapide. Il faudra environ une semaine et demie à partir de levure avec des gènes de vache dedans pour faire du fromage. Et en plus, on peut vous envoyer un kit de levure chez vous. Chacun pourra disposer d'une source de protéines renouvelable et responsable chez lui.
Ah oui, donc l'idée, c'est qu'on pourrait faire son lait chez soi, hein, donc évidemment son fromage. Mm-hmm. Mais alors par contre, au niveau du goût, Axel, qu'est-ce que ça peut donner? Vous avez une idée? Ils ont déjà produit quelque chose ou pas?
Alors non, vous pensez bien qu'en tant que fromage qui pue, je me suis intéressé à la question.
Bien sûr.
Craig a été franc, personne n'a encore la moindre idée du goût que ce fromage aura. Pour le moment, ils sont en train d'inclure les gènes de vache dans les levures. Extraire les protéines et créer du lait, ce sera assez simple. Mm-hmm. Ensuite, il faudra le laisser fermenter. Ils devraient obtenir quelque chose qui ressemble à du fromage, a priori une pâte molle, hein, proche de la mozzarella, et peut-être avec un goût de tofu.
Oh là, voilà. Bon, ça donne pas tellement envie comme ça.
Ça donne pas très envie,
a priori. Hein.
Mais selon lui, le camembert, le Munster, le comté végétalien ne sont pas si loin.
On n'en est vraiment pas encore là. Ce sera pour plus tard. Mais le goût d'un fromage vient surtout des bactéries qui sont dedans, ou des champignons, ou d'autres micro-organismes encore. Donc une fois qu'on aura notre fromage, on pourra certainement faire des versions véganes de chacun des fromages français, par exemple. Je ne dis pas que ce seront les mêmes à 100%, mais à vrai dire, j'en sais rien.
Un petit bémol quand même, hein. Les micro-organismes qui font le goût et la variété des fromages du monde entier se nourrissent principalement du lactose, le sucre contenu dans le lait de vache, qui sera absent du lait vegan, donc il faudra trouver des alternatives, c'est pas complètement gagné.
Bon, est-ce qu'on peut vraiment espérer voir un jour ce vegan cheese dans le commerce ou pas?
Alors, dans leur laboratoire californien, ils devraient en goûter en juillet prochain, c'est
d'accord.
Le but, et ils espèrent commercialiser tout ça d'ici 3 ans, donc à suivre.
Bon, bah, ça donne pas vraiment envie comme ça, a priori.
Ça donne envie
de plonger dans le pot des pois immédiatement. Et s'en faire une bonne cuillerée.
C'est ça.
Merci beaucoup, Axel. Donc, il y a une plateforme participative en ce moment qui récolte de l'argent pour ceux vraiment qui seraient amoureux de ce projet.
Et sur le site de la Tête au Carré, on peut retrouver toutes les infos.
Il s'appelle Indiegogo. Hein.
Go-go.
Indiegogo. Bon, il est en lien sur la Tête au Carré. Merci, Axel, pour d'autres découvertes sur le web. À lundi prochain. L'amitié 2.0, c'est dans un instant. Après Brigitte.
Viens ce jour. Ma peau ne sait plus attendre. Viens, cours, des papillons creux du ventre. Viens me porter secours. Je brûle nos imaginaires, le vin et les chansons d'amour en sucre me font.
jour se lève, la fièvre prend fin. M'aimeras-tu demain?
Abouche, que veux-tu ? La voix de Brigitte sur France Inter et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission. L'amitié sur les réseaux sociaux, c'est le thème ce lundi de notre Tête au Carré. Pour en parler, je suis avec la philosophe Anne Dalsuay, auteure d'un livre « T'es sur Facebook, qu'est-ce que les réseaux sociaux changent à l'amitié ?» C'est aux éditions Flammarion. Et à ses côtés, le sociologue Antonio Casilli, qui est spécialiste des réseaux sociaux et des usages du numérique. Alors l'amitié dans la culture numérique, justement, comment, Anne Dalsuay, en tant que prof de philo, est-ce que vous êtes intéressée à ce sujet ? Est-ce que vos élèves, d'abord, vous ont sensibilisé à cette question ?
Alors j'ai pu observer que c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour eux, que c'était le moyen privilégié, Facebook était le moyen privilégié qu'ils utilisaient pour communiquer, beaucoup plus que le mail finalement. Donc ça a pu être un premier constat. Et ensuite il se trouve que j'ai travaillé sur la Boétie, justement en philosophie politique, et qu'il était important pour lui d'investir en fait cet affect, cette pensée de l'amitié pour essayer de repenser ce qu'on appelle un vivre ensemble, une politique saine qui permettrait justement de lutter contre les servitudes volontaires. Il observait que là où les servitudes volontaires accablaient une société, l'amitié avait disparu. Le lien à l'autre était corrompu. Abîmé.
Oui. Voilà. D'où l'intérêt d'aller voir ce qui se passe précisément sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec l'amitié 2.0.
Avec l'amitié 2.0, au moment même où il surgissait comme ça, à travers les réseaux sociaux, ces luttes politiques durant ce qu'on a appelé les printemps arabes, voilà. Donc c'était faire le lien entre l'amitié, le politique, qui était devenue cette filia grecque, en fait.
Alors on parlera justement de l'Antiquité aussi avec vous tout à l'heure sur la définition de l'amitié au sens classique, peut-être du terme, puisque ça a beaucoup changé, on va le voir avec vous. Antonio Casilli, vous, en tant que spécialiste des réseaux sociaux, l'amitié, c'est une piste intéressante à explorer aussi.
C'est une piste intéressante dans la mesure où l'amitié, depuis une dizaine d'années, s'est imposée dans les réseaux sociaux d'Internet comme synonyme de lien. Lien entre deux usagers, et donc entre deux personnes, mais aussi un lien entre deux profils. Et au début, si vous y pensez, au début des années 2000, sur des services de networking social comme Friendster, comme MySpace, et après, plus tard, sur Facebook, voilà, l'amitié désignait exclusivement le lien entre deux profils. Oui. C'était une métaphore, c'était une ruse de l'interface. Mais après, cette ruse de l'interface est arrivée à devenir significative pour les usagers mêmes. D'où l'intérêt pour moi.
Anne Dalsuay, justement, qu'est-ce qui définit l'amitié avant l'arrivée des réseaux sociaux, alors ?
Alors, il faudrait voir si on l'entend peut-être au sens d'une relation intersubjective, éventuellement exclusive, absolument choisie, une relation de confiance, de partage, qui ne peut concerner finalement que peu de personnes. Hein. C'est-à-dire que ce qui apparaît dans les philosophies, notamment les philosophies éthiques, c'est qu'on a rarement plus de 2, 3, 4 ou 5 amis, donc ça dit la rareté du lien. Ensuite, il se trouve que chez les Grecs, philia, si vous voulez, est ce terme qui désigne plus que cette amitié intersubjective et exclusive, et c'est le lien politique en général, donc là, a priori, ça concerne tous les citoyens de la cité. Ils sont en relation de philia quand la société, justement, est suffisamment saine dans ses liens politiques.
Et il y a une affaire de corps. Évidemment.
Évidemment. Il faut une proximité. Bon, on peut très bien se référer à des amitiés épistolaires, de la distance, mais en général, on a au moins partagé du temps ensemble, comme dirait Aristote, on a partagé quelques boisseaux de sel.
Ouais.
On a pris des repas ensemble. Hein. Il y a aussi cette dimension-là, du partage de ce qui est fondamental.
Antonio Casilli, alors depuis l'arrivée justement du numérique, cette amitié 2.0 n'a plus rien à voir du tout avec cette définition, en tout cas une de celles qui est possible.
Au contraire, je trouve qu'il y a des fortes continuités, et je pense qu'Andalsué serait d'accord avec moi, sauf que ces continuités font un peu le choix entre certains aspects, valorisent certains aspects et laissent de côté d'autres aspects.
C'est-à-dire ?
Alors, en l'occurrence...
Vous pensez à quoi ?
Je pense surtout au fait que l'amitié sur les réseaux sociaux d'Internet est extrêmement déclarative et extrêmement performative. Alors, je cherche à préciser un peu mieux. Déclarative au sens qu'il y a toujours une déclaration officielle. Il y a toujours quelqu'un qui vient vers nous et qui nous dit, et c'est écrit noir sur blanc, « Veux-tu être mon ami ? Oui ou non ?» Et donc une déclaration forte qui doit être du type « Oui, je veux être ton ami. »
C'est quasiment une demande en mariage. Hein.
C'est plutôt, voilà.
Ouais, ça fait penser à ça, en tout cas. Hein.
Fait pas au père.
C'est vrai. On s'adresse directement à l'intéressé. Ça simplifie beaucoup les choses.
En même temps, voilà, il y a aussi... ça rappelle le mariage aussi, parce que, quelque part, il y a aussi l'enregistrement de cette amitié dans une base de données, en l'occurrence, mais aussi dans un registre public, ou alors semi-public, ou voilà. Mais donc, la question est que, quelque part, il y a l'enregistrement de cette amitié, ce qui n'était pas le cas dans les visions les plus anciennes. Je pense à Cicéron, je pense à Aristote même, qui insistait sur aussi l'intimité initiale, du moins pour créer. Alors, après, il y avait la question du performatif. Hein. Cette amitié sur Internet favorise les aspects performatifs. Il faut la montrer. Il faut s'afficher en tant qu'ami. Il faut entretenir le lien. Il faut faire des commentaires, laisser des j'aime, et ainsi de suite. Et donc, pour cela, rien n'est laissé à l'implicite. Rien n'est laissé au fusionnel, ce qui aurait pu être le cas, par exemple, dans Montaigne. Voilà, cette idée qu'il avait, Montaigne, d'insister sur le fait que son amitié avec la Boétie était une manière de se plonger dans l'autre, etc. Ceci n'est pas le cas. Donc il y a des continuités, il y a aussi des fortes différences.
Mm-hmm. Andalsué, pour compléter sur cette idée.
Je repensais à cette idée de ce qui ne laisse pas de traces. En même temps, chez les Grecs, il y avait cette histoire de symboles, d'anneaux qu'on brisait et qu'on se transmettait de génération en génération. C'est-à-dire que finalement, il y avait une filiation de l'amitié. C'est-à-dire, trois générations plus tard, si les parents ou les grands-parents ne s'étaient pas revus, on pouvait revenir dans cette famille d'amis avec le témoignage, comme ça, symbolique, c'est le cas de le dire, de cette amitié scellée, originairement. Donc, cette idée que l'amitié passe par la preuve, par des actes, peut-être par des symboles, s'est retrouvé, ça s'est converti d'une certaine manière dans les réseaux sociaux, sauf que là, on en passe par des symboles, des images, ou bien des phrases courtes, ça s'énonce dans le discours également.
Il y a un philosophe et plutôt un historien français qui s'appelle Milad Douéhi, qui a beaucoup insisté justement sur cet aspect de la visibilité de l'amitié. Et dans son livre Pour un humanisme numérique, justement, insiste sur ce fait que l'amitié est une manière de mettre en visibilité certains aspects qui sont normalement implicites dans une relation intime. Or, il y a aussi un autre aspect qui, à mon avis, est selon Douéhi et moi aussi, représente une continuité entre l'amitié. Certaines définitions de l'amitié ancienne et l'amitié sur Facebook, l'élément du calcul. Hein. Même si ça peut nous paraître éloigné de ce que l'amitié idéale devrait être, certains philosophes, je pense à Francis Bacon, dans son livre Of Friendship, disait que l'amitié est quelque chose qui divise par deux les malheurs et qui multiplie les joies. Donc il y a un élément de calcul des plaisirs et des douleurs aussi, qui était caractéristique de la philosophie morale ou leur d'une certaine philosophie morale du XVIIe siècle qu'on retrouve sur Internet dans la mesure où il y a un élément de calcul, il y a un élément de mesurabilité des amis en termes de nombre d'interactions, de fréquence, en termes de proximité, en termes de métrique d'amis, c'est-à-dire combien d'amis j'ai sur un réseau social.
Andalsué, est-ce que le corps a pour autant disparu aujourd'hui avec l'amitié 2.0 ? Parce qu'on voit que la proximité n'est plus du tout la même avec une amitié classique, mais le corps existe encore d'une certaine façon quand même.
Oui, c'est-à-dire que spontanément, on a l'impression que nous ne sommes plus ensemble, nous ne sommes plus dans un face-à-face, mais regarder de plus près, bon, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que moi, je suis partie du fait que, oui, voilà, la rencontre, justement, si on voulait faire une comparaison avec Bouvard et Pécuchet chez Flaubert, ils se rencontrent sur un banc, il fait chaud, ils pourront dire plus tard, tiens, tu portais tel vêtement, souviens-toi comme il faisait chaud ce jour-là.
Là, c'est le clic avec le 2.0.
Oui, c'est le clic, on peut dater, et d'ailleurs, on date le clic, mais... le corps réapparaît, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu. Et ça suppose, en fait, qu'on pense différemment la machine et le rapport, justement, de l'homme à ces technologies androïdes, hein, qui ne sont pas, qui sont finalement un prolongement aussi de lui-même. Et ce qui m'a étonnée quand, justement, à lire certains auteurs, c'était que l'importance du digital, quoi, de la tactilité.
Donc il y a du toucher.
Du toucher,
hein, quand même.
Et donc de l'implication du corps. C'est-à-dire que le réseau est d'une certaine manière intériorisé dans le corps. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on peut assister à des comportements un peu. Peut-être qu'il nous semble exagéré quand quelqu'un perd son portable, en fait. Peut-être qu'il perd une forme de prothèse, enfin, quelque chose qui est une extension de lui-même, réellement.
En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dans la distance entre les êtres, hein, sur les réseaux sociaux. Et puis, quelques paradoxes aussi. Mathieu nous dit ceci dans son courriel. On nous parle tous les jours de mondialisation. Les réseaux sociaux, écrit Mathieu, sont un exemple concret dans la vie de chacun, représentant cette réalité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux me permettent de garder des liens d'amitié avec des personnes dans le monde entier. Et sans ces derniers, l'éloignement aurait effacé une part de ces relations. Qu'est-ce que vous en pensez, Antonio Casilli ?
Ah, je m'inscris en faux, sincèrement. C'est une rhétorique assez années 90, quand on insistait vraiment sur cette idée selon laquelle... Oui, effectivement, ça, c'est... on insistait sur le fait que Internet aurait permis de rentrer en contact avec des personnes qui étaient aux antipodes, et ainsi de suite. La réalité des usages des dernières années en particulier, si vous pensez justement à des plateformes de socialisation généraliste à la Facebook, et qu'on commence toujours par recréer une certaine forme de bulles de confiance ou premier cercle de connaissances qui rassemble, voire qui est homothétique par rapport à notre socialité en face à face, et après on s'aventure un peu plus loin. Donc en gros, pour faire court, on commence par recréer notre famille, notre école, nos collègues sur Facebook, après on commence à rencontrer les amis d'amis, jusqu'à arriver très loin, et c'est à ce moment-là qu'on s'éloigne de notre zone de confiance. Je ne parlerai pas de mondialisation ni de globalisation avec d'autres auteurs, je préfère parler de réseaux locaux, c'est-à-dire globaux et locaux en même temps.
Andelsfe, parce que la géographie est importante aussi, la géolocalisation, ça a un rôle important aussi dans ces liens d'amitié sur les réseaux.
Oui, ce qui apparaît sur les réseaux, c'est que sociaux, justement, c'est que les gens souvent s'inscrivent, disent où ils sont, d'où ils envoient justement leurs messages, à proximité de. Enfin, c'est quelque chose que j'ai observé, je ne sais pas quelle valeur ça a sociologiquement ou scientifiquement, mais c'est quand même quelque chose qui réapparaît assez régulièrement. Et puis, quand vous disiez, enfin, quand l'auditeur disait qu'il avait, qu'il était en contact avec des...
Il avait renoué, il avait pu prolonger.
Oui, mais c'est quelqu'un qu'il a connu préalablement. Enfin, c'est aussi à penser, ça. C'est-à-dire que, comme vous le disiez justement, enfin, c'est-à-dire qu'on part de ce qui est connu et on étend finalement cette sociabilité. Donc, évidemment, puisqu'on se déplace plus, on retrouve des amitiés, mais c'est une amitié préalablement connue dans un terrain, sur un terrain qu'on a partagé.
Et qui existait donc déjà avant.
Et qui existait aussi donc
le 2.0. Hein.
Oui. Les études récentes, par exemple, d'un sociologue canadien qui s'appelle Barry Wellman, montrent qu'il y a vraiment une très très forte corrélation entre le fait de partager une origine géographique ou alors de voyager à certains endroits et le fait d'entretenir certaines amitiés. Si on regarde vraiment les statistiques des amitiés sur Facebook, même seulement en s'appuyant sur l'élément linguistique, on a tendance à créer des amitiés avec des personnes qui résident dans la même nation ou alors, pour les personnes issues de l'immigration, avec des personnes qui font partie du pays d'origine. Mais donc, quelque part, géographiquement, le lien doit exister.
Ce message de Chantal, c'est peut-être paradoxal, écrit-elle, mais à mon sens, les réseaux sociaux sont surtout un formidable révélateur de la solitude et de l'isolement. Anne Delsey, sur ce point.
Alors, quand j'ai voulu commencer à travailler sur ça, je me suis dit, tiens, mais finalement, est-ce qu'on interdit la solitude désormais? Peut-on ne pas avoir d'amis, en fait? Est-ce qu'on est autorisé à cela? C'était aussi un de mes points de départ. Bon, ce que ça révèle, une solitude, il me semble, moi, quand j'ai lu justement les travaux de Daniel Miller, c'est que on pourrait s'opposer à cette idée, c'est-à-dire que justement, les réseaux sociaux ont permis de restaurer, ou restaurer dans quelle mesure, ça, il faudrait y regarder de plus près, des sociabilités qui avaient disparu, des sociabilités parfois intergénérationnelles, des situations d'isolement. Mmh. Peut-être que ça rend visible une certaine forme de solitude. Est-ce que ça la fabrique ?
En tout cas, choisir une solitude, choisir une absence, choisir le vide sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement compliqué. C'est très mal perçu, au fond. On n'est pas là pour ça, quoi.
Oui, c'est perçu comme un refus d'usage ou alors vraiment une stratégie particulièrement, disons, antipathique. Bon, enfin, c'est certainement qui ne sollicite pas la popularité. Bah, la question de la solitude, en fait, est une question complexe aussi parce que je dirais que les données ne vont pas dans ce sens-là. Si on regarde un peu, par exemple, le nombre moyen de contacts qu'on a sur Facebook, ce nombre de contacts est en train de monter de plus en plus d'année en année. Alors, on va dire, évidemment, que c'est des liens qui sont considérés comme des liens qui sont exclusivement en numérique et que, donc, cela sollicite la solitude. Point d'interrogation. Moi, effectivement, sur ça, je laisse un peu planer le doute.
Et nous poursuivons bien sûr notre discussion sur l'amitié 2.0 dans un instant avec nos invités. Le temps de découvrir ensemble le nouveau Leonard Cohen. Almost Like the Blues sur France Inter, la voix de Leonard Cohen. C'est extrait de son prochain album qui s'appellera Popular Problems, qui va sortir le 23 septembre, deux jours après l'anniversaire de Cohen qui va fêter ses 80 ans cette année.
Tout le monde veut aller sur le net pour se regarder sur ses amis, alors pourquoi ne pas concevoir un site avec tout ça, amis, photos, profils, des contenus qu'on peut visiter, parcourir, pourquoi pas quelqu'un qu'on a vu à une fête. Attention, je parle pas d'un site de rencontre. Je te parle de prendre tous les constituants de la vie sociale de l'université et de les mettre en ligne.
Je sens plus mes jambes.
Je sais. Ce projet me met aussi en transe. Mais Wardo.
Ouais. Ça devra être sélectif.
On devra connaître les personnes du site pour passer à d'autres pages, tu vois, se faire brancher.
C'était une super idée. Il n'y avait rien à pirater, les membres allaient fournir eux-mêmes leurs photos, leurs informations, et tout le monde avait la possibilité d'inviter ou de ne pas inviter ses amis à les rejoindre. Dans un monde où les relations sociales sont la base de tout, c'était le Graal.
Extrait de The Social Network de David Fincher, sorti en 2010, ce film qui raconte donc la création du réseau Facebook par Mark Zuckerberg et puis toutes ses relations avec ses camarades de l'université d'Harvard, puisque nous parlons de l'amitié numérique cet après-midi, l'amitié sur les réseaux sociaux plus précisément avec le professeur de philosophie Endel Suet et Antonio Casilier. Vos messages nombreux sur franceinter.fr, ce message d'ailleurs de Claire qui nous dit ceci: « Je n'ai pas de compte Facebook, mes amis appartiennent à ma sphère privée, les réseaux sociaux ouvrent cette sphère au domaine public et de la même manière que je ne monte pas sur le de mon immeuble pour crier que j'aime mes enfants, je ne vais pas exposer mes sentiments pour tel ou tel ami. Et par ailleurs, les infos que je pourrais donner à tel ami ne sont pas forcément les mêmes que celles que je donnerais à quelqu'un d'autre. »
Elle vient de le dire à la radio, je signale. Donc
elle le crie sur les toits. Anonyme. Elle est anonyme chez nous. C'est un message anonyme.
On peut être anonyme sur Facebook.
Ouais.
Alors ça pose d'ailleurs... Au départ, ça ne devait pas être un site où on était couvert par un pseudonyme, mais en fait, il apparaît que... Voilà, on peut utiliser un pseudonyme.
Je mettrais un bémol, on peut être pseudonyme, c'est ça la question principale. Il faudrait vraiment employer sur ces réseaux-là la notion de pseudonymat. Et Google Plus et Facebook ont toujours eu une politique extrêmement forte de real names. C'est-à-dire qu'il faut y avoir...
Donner sa véritable identité.
Identité civile, oui. C'est
vrai. Mais dans les faits, c'est contourné.
C'est contournable.
C'est plus contournable que contourné, c'est vrai.
Antonio Casilli, le friending, qu'est-ce que c'est par rapport à l'amitié alors?
Friending est une...
Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, donc c'est un mot un peu barbare, même en anglais, qui veut dire le fait de amitié quelqu'un.
Amitié
donc,
quelqu'un.
Amitié avec un air. Voilà. Oui. Et vers, disons, la moitié des années 2000, certains sociologues et analystes des réseaux sociaux ont commencé à dire « Bon, il faudrait peut-être employer une autre notion. » Non pas continuer à s'interroger sur le fait que l'amitié sur les réseaux sociaux soit une vraie amitié, une fausse amitié, etc. Mais on va employer une autre notion. La notion de amitié quelqu'un, c'est une notion transitive. Donc, je peux choisir d'amitié quelqu'un. C'est surtout, il y a aussi une dimension sociotechnique, parce qu'il y a le fait de créer une liaison entre deux profils. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on laisse de côté tout ce débat que nous sommes en train d'avoir sur le fait que cette amitié-là soit une vraie amitié. Bon, après, évidemment, comme il y a une proximité entre le mot befriend en anglais et friending, on continue à avoir non seulement cette confusion qui, à mon avis, est extrêmement riche et qui nous permet d'interroger nos propres catégories. Et donc, voilà, finalement, on se retrouve va l'employer un peu moins, désormais.
Endel Suet ?
Oui, je suis assez d'accord avec cette idée que le friending, c'était une manière de revisiter une catégorie qui était très porteuse, et en même temps de la déplacer, de la convertir, puisque de toute façon, le numérique convertit tout. Nos catégories de pensée, mais également nos pratiques. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans le friending, c'est de voir qu'on pense différemment, mais on pratique différemment aussi ces liens d'amitié.
Sur Facebook et sur Twitter, en l'occurrence, sur le hashtag l'attaque, Nicolas @NickPilgrim nous dit ceci: est-ce qu'on ne peut pas considérer le fait de liker les posts de ses amis comme une forme d'épouillage du 21e siècle? Alors, épouillage, je pense qu'il fait référence aux primates, qui se cherchent les poux dans la tête, en tout cas qui se nettoient.
Oui. Donc, justement, on parle aussi de grooming en anglais, donc un autre ing. Le fait de se chercher des limaces, de se faire des faveurs hygiéniques, enfin, pour ainsi dire, quelque chose qui est connu chez les primates, et effectivement, donc les anthropologues ont remarqué que ces primates-là ont tendance à avoir un niveau de conflictualité moins élevé. Et c'est pourquoi certains ont dit peut-être que sur Internet, il faudrait ne pas rechercher l'amitié, mais vraiment l'amitié avec, au sens plein du terme, l'amour, le contact fusionnel, mais plutôt une forme de se rendre des services réciproquement. Voilà, j'ai remarqué ce lien, ça peut t'intéresser, ou alors j'ai vu qu'il y a un bug dans ton code, ou alors une erreur sur ta page.
Donc on like et on poke aussi sur Internet. Le poke, c'est comme le petit coup qu'on met sur l'épaule à son ami, enfin quand on le prend
au sens... Oui, c'est ça, c'est presque une transcription de quelque chose de gestuel. Ouais. En fait, là encore, c'est le retour du corps.
Voilà. On passe par l'outil et puis on croque. Un petit coup.
Mais ça me faisait penser à... Tout à l'heure, vous parliez de Francis Bacon. Et de fait, lui conçoit l'amitié comme quelque chose, comme une relation pacificatrice. Mmh. Et là, on retrouve cette dimension-là. Enfin, je like. Mmh. Et ça... Peut-être quelque chose de pacificateur.
Géraldine nous envoie ce message. Les réseaux sociaux, en multipliant le nombre d'amis, ne nous font-ils pas perdre la qualité dans les relations humaines hors ligne? C'est toute la question, évidemment, et qui revient régulièrement quand on aborde ce type de sujet, Antonio Casilli.
Oui, donc il y a ce qu'on appelle un effet de vase communicant. Voilà, on est habité par cette idée selon laquelle il y aurait vraiment une continuité. Si je m'investis trop dans les relations en ligne, forcément je vais perdre quelque chose dans les relations hors ligne. Le fait qu'il y a une énorme continuité et que les mêmes personnes, ou alors une bonne partie des personnes avec qui j'interagis en face à face, j'interagis avec eux aussi par téléphone, et après j'envoie des mails, et après j'ai des fortes chances d'être avec eux, si c'est pas sur Facebook, sur un autre réseau. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un effet de vase communicant, de remplacement. Voilà.
Oui, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'on est prisonnier de logique dualiste, comme si c'était l'un ou l'autre.
Oui.
Et comme vous le dites très justement, ça s'inscrit vraiment dans des continuités. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence par être amis sur Facebook avec ses amis. Je ne dis pas qu'on est amis avec tous ses amis sur Facebook.
On commence souvent comme ça, en tout cas.
Commence souvent comme ça.
Ouais. Laura nous dit, j'ai noué des liens d'amitié très forts grâce à MSN. Ces moyens ont pu libérer la parole de certaines personnes trop timides. Et j'ai connu mon compagnon grâce à MSN et nous sommes ensemble depuis 7 ans. Ah. Voilà, ça c'est une vraie demande en mariage qui a réussi.
Tout nos vœux de bonheur.
La liaison numérique par excellence.
Exactement. Guillaume nous dit, quelle est la place pour l'amitié quand un mur social, c'est sur le hashtag l'attaque, se retrouve envahi par les annonceurs ciblant notre profil?
Et là, cela nous met face à l'envie des marques aujourd'hui, et donc des annonceurs aussi, d'avoir un visage humain. Depuis le début des années 2000, le monde économique, le monde des entreprises cherche à construire une conversation, cherche à créer un contact direct avec ses consommateurs. Mm-hmm. Et c'est pour cela qu'ils cherchent à prendre les consommateurs justement par les affects. Et effectivement, il y a un effet de détournement que personnellement je n'apprécie pas toujours, et je pense qu'il y a aussi des fortes réactions de la part des consommateurs, et que bientôt ces réactions qui deviennent de plus en plus virulentes vont réinterroger ces stratégies de marketing qui parfois le spam.
Ouais. Alors Andelson, on parlait tout à l'heure justement de l'anonymat, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'expositions sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de contrôle. On laisse une part de notre identité.
De contrôle et de... C'est comme si on acceptait d'être contrôlé. C'est-à-dire que c'est pas...
Consentant.
On est consentant.
On est consentant sur le contrôle. Alors qu'on ne supporte pas de se faire contrôler par la police.
Mais ça serait un lieu où ça serait devenu possible. Et on anticiperait même ces possibilités de contrôle. Donc ça, c'est peut-être une des choses les plus questionnantes, en fait.
Alors ça, c'est sûr. Et comment vous expliquez ça, Antonio Casilli? Le fait qu'on livre autant d'informations, vraiment, à la portée de tout le monde?
Alors, d'une part, il y a un effet d'injonction. Je pense qu'effectivement, il y a eu certains acteurs culturels, certains acteurs économiques et politiques qui ont fait un travail remarquable, mais je le dis avec beaucoup de sarcasme et avec même un peu de rage, dans les années passées, pour pousser les utilisateurs à dévoiler une quantité importante. Alors, je pense effectivement à des entrepreneurs à la Zuckerberg qui nous disent que c'est une logique sociale. Lui, il a rien fait. C'est la nouvelle norme qui s'est imposée, et malgré lui, presque, pauvre innocent. Alors, de l'autre côté, par contre, il faut pas croire que les usagers sont dupes ou passifs. Au contraire, ils développent des stratégies pour négocier, mais au niveau vraiment micro-sociologique, dans l'interaction one-to-one entre deux personnes, ce qu'ils partagent réellement. Et renoncent par contre à avoir un contrôle sur les choses sur lesquelles ils ne peuvent pas avoir contrôle. Donc en gros, pour faire court et pour vous donner un exemple rapide et final, en gros, ils renoncent à négocier sur les conditions générales d'usage de Facebook, parce que là c'est un contrat, cela demande effectivement un savoir de jurisprudence qu'ils ne peuvent pas avoir. Et de l'autre côté, par contre, ils choisissent le type d'amis auquel ils dévoilent certaines choses, le type de photos qu'ils dévoilent, le moment de la mise en ligne et les possibilités de partage, et ainsi de suite.
Andelsen, c'est d'ailleurs la conclusion de votre livre. Hein. C'est quel réseau, quel numérique nous voulons, en fait. De quelle façon est-ce qu'on veut interagir sur ces réseaux sociaux?
excusez-moi, est-ce qu'on adhère à un système qui...
Quelle pratique
impérialiste, comme cela, hein, qui nous impose des formats, qui nous impose justement cette visibilité, parce qu'elle était payante, hein, d'une certaine manière, elle rapportait. Mais on voit très bien que les usagers inventent aussi des pratiques, des réponses, des décalages, hein, comme vous le disiez. C'est-à-dire, on ne montre pas tout et pas tout le monde. Souvent, on s'inquiète que la jeunesse ne prenne pas conscience de ce qu'elle peut montrer. Je pense que c'est plus complexe que ça, en fait.
Anne Delsuet, donc ce livre « T'es sur Facebook », c'est aux éditions Flammarion dans la collection Antidote, et Antonio Casilli, c'est sorti en 2010, mais c'est toujours dans les librairies. « Les liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité », c'est aux éditions du Seuil dans la collection « La couleur des idées ». Et dans un instant, le quiz scientifique de la tête au carré. De nouveaux auditeurs vont s'affronter. Ce sera juste après Ben, l'oncle Saul et ailleurs. Bon après-midi sur Inter.
Étrange, étrange. Peu importe où tu sais, on ira n'importe où. Pourvu que l'on s'éloigne, ici rien ne tient plus debout. Peu importe où aller, s'il faut qu'on lâche tout. Pour tout recommencer, ici j'avais de venir fou.
Et la semaine reprend avec toutes nos questions scientifiques, celles que nous avons concoctées pendant tout le week-end avec mon acolyte Florence Porcel. Qu'est-ce qu'on a bossé, hein,
oh là
Florence.
Là. Dur, ça va bien. Dur. Ça va très bien, Mathieu.
Voilà, des questions dans tous les domaines de la science.
Ah oui.
Spécialement préparées aujourd'hui pour Michel et Magali qui sont en ligne avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Michel,
vous habitez à Arly, c'est dans l'Aisne.
C'est ça.
Et vous êtes enseignant.
Oui.
Qu'est-ce que vous enseignez exactement?
Alors j'enseigne l'expression et la communication pour des étudiants qui sont plutôt scientifiques.
Ah c'est bien ça.
Voilà, moi je suis pas scientifique en tant que tel, mais par contre les étudiants auxquels je donne des cours sont par contre des scientifiques purs et durs.
Voilà, et c'est très important ce que vous faites pour permettre justement aux scientifiques de bien communiquer sur les travaux qu'ils mènent.
c'est ça.
Magali, vous êtes à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes ingénieure.
C'est exact.
Vous travaillez dans quel domaine, plus précisément ?
Dans les énergies.
Très bien. Nous avons donc beaucoup de questions à vous poser. C'est donc le moment de commencer, Florence, avec notre partenaire, le dictionnaire Le Robert.
Et oui, on joue pour vous offrir un correcteur d'orthographe. Et évidemment, c'est le joueur qui aura accumulé le plus de points qui remportera ce cadeau.
Et on commence avec la question d'actualité. Vous allez entendre un extrait sonore dans un instant. Et à l'issue de cet extrait sonore, Michel et Magali, j'aurai une question à vous poser. Voici cet extrait. Très impressionnant. On vient d'entendre un très gros animal attaquer une proie, en l'occurrence. Cet animal a une particularité. Michel et Magali, il devient diabétique pendant son hibernation, mais il en guérit lorsqu'il se réveille. Quel est cet animal ? Vous avez 30 secondes pour nous répondre.
Un tigre.
Qu'est-ce que vous nous avez dit, Magali, pardon ?
Un ours.
Un ours. Est-ce que vous voulez préciser votre réponse un tout petit peu ?
Un ours blanc, un grizzly, un ours polaire.
C'est un grizzly.
Un grizzly, voilà. Vous l'avez dit.
Voilà, merci pour toutes vos propositions. Nous avons effectivement entendu le grognement et la respiration impressionnante du grizzly,
Florence. Oui, du grizzly en chasse. Et selon une étude parue récemment, les grizzlies deviennent obèses pour survivre à l'hiver. Mais c'est une obésité saine liée à un diabète qui disparaît à la fin de l'hibernation. Et du coup, ça intéresse les chercheurs qui essayent de mieux comprendre les relations entre obésité et diabète pour peut-être trouver des remèdes contre le diabète de type 2.
Voilà, et c'est voilà. Ce qui se passe quand on est souvent dans le pot de miel.
Oui.
Et le grizzly rapporte quelques points à Magali, en l'occurrence.
Oui, 10 points pour Magali.
Alors, nous allons passer aux questions de rapidité. Vous connaissez le principe maintenant, Michel et Magali ?
Oui.
7 questions à la suite pour vous. Donc, votre cerveau va devoir enclencher la vitesse supérieure pour répondre à toutes ces questions. Et si vous êtes prêts, eh bien, nous lançons le chrono.
Je suis prête.
On y va, Michel ?
Oui.
C'est parti. Première question. Quels mots exacts correspondent à l'abréviation OGM ?
Organisme génétiquement modifié.
Vous avez gagné tous les deux
les points.
Quelle grotte française a été classée en juin dernier au patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Pardon ?
Non, c'est pas Lascaux.
C'est l'autre. Quelle grotte française a été classée ?
Chauvet.
La grotte Chauvet, bonne réponse pour Magali. Dans quelle ville se trouve le divan de Sigmund Freud ?
Vienne.
Pardon ?
Non.
Vienne.
Non, ça n'est pas à Vienne. Il y avait un petit piège. Là où il a fini sa vie.
Londres.
À Londres. Bonne réponse pour Michel. Qui a écrit les fameux Principia Mathematica en 1687 ? On vous donne la date un peu pour vous aider.
Je ne sais pas, Laplace, Fournier...
Grand scientifique britannique, philosophe, mathématicien, Newton, astronome...
Michel, vous avez dit ?
Newton,
bonne réponse. Quel élément minéral est indispensable au fonctionnement de l'hémoglobine ?
Le fer,
bonne réponse. Et dernière question, comment appelle-t-on également le stupéfiant dont le nom scientifique est MDMA ?
Cannabis ?
Non.
L'ecstasy.
Très bonne réponse de Magali. Ouh, c'était serré.
Ben oui.
J'ai le sentiment que Magali a une petite longueur d'avance, mais il faut faire le compte des points, Florence.
Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai 20 points pour Magali et 15 pour Michel.
Voilà. Ce qui fait un total
de 30 pour Magali et de 15 pour Michel.
C'est donc la dernière question avec le mot mystère. Là aussi, vous connaissez le principe. On vous a donné un mot hors antenne et c'est à vous de donner la définition à votre adversaire. C'est un petit peu particulier, ça paraît contre nature, mais ça nous a amusé de créer cette règle spécialement pour vous. Est-ce que Magali, vous voulez commencer ?
Oui, d'accord, volontiers, oui.
Vous avez donc 45 secondes pour faire deviner votre mot mystère à Michel, et c'est parti.
Alors, c'est une substance alimentaire qui est comestible et qui représente à peu près glucides, lipides, protéines, vitamines, ça englobe...
C'est un ensemble, on va dire. Un ensemble de composés, c'est ça.
Comestible.
Alors,
qui est nécessaire à la vie.
La matière organique.
Non. Pensez à ce qu'on mange.
L'organisme en a vraiment besoin.
Les nutriments.
Bravo, Michel. C'était sur le fil.
Oui, et bravo Magali, parce que ce n'était pas facile à faire deviner.
Voilà, vous avez été aidé effectivement dans la définition. Et Michel, il s'agit bien des nutriments. Michel, c'est à vous d'opérer maintenant. Vous avez le mot sous les yeux. Je vous laisse donc nous en donner la définition. Il faut bien sûr que Magali puisse découvrir ce mot. C'est parti, 45 secondes.
Alors, c'est un gaz rare et qu'on trouve dans des lampes sous forme de tube.
Michel, d'autres éléments de définition ?
Le néon ?
Voilà.
Oui.
Bah, chapeau, hein, franchement, bravo, le néon. C'était effectivement la réponse à cette question. On fait le total des points ?
Oui, je suis en train de compter derrière mon micro. Nous avons 25 points pour Michel et j'ai 40 points pour Magali.
Voilà. Bravo Magali.
Bravo Magali.
Très bien joué, mais Michel, vous êtes parfaitement défendu.
Absolument.
Alors Magali, vous repartez, je crois, avec un correcteur d'orthographe, si je ne m'abuse.
Oui, un correcteur d'orthographe pour corriger non seulement votre orthographe, mais aussi votre grammaire et tout un tas de choses avec des dictionnaires intégrés, de locutions, de noms propres, etc. Et c'est offert par le Robert.
Voilà, c'est un logiciel.
C'est un logiciel, oui, pour PC et Mac.
D'avancer et d'envoyer des petits mots doux sans faute d'orthographe. Magali et Michel, merci beaucoup d'avoir participé à notre quiz en ce début de semaine.
Merci beaucoup.
Et on reste ensemble à l'écoute sur les ondes pour poursuivre nos découvertes scientifiques et pour tous ceux qui veulent nous accompagner, Florence.
Voilà, il faut s'inscrire sur le site de l'émission sur franceinter.fr.
Merci de me l'avoir soufflé, je l'avais encore oublié. À bientôt Michel et Magali, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Gabriel sur France Inter. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez laisser vos messages vocaux sur le répondeur de la Tête au Carré qui est à votre disposition. Intervenez, réagissez, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les dossiers que nous vous proposons. Vous pouvez bien sûr revenir sur des émissions qui vous ont fait réagir. Soyez critiques, donnez-nous également vos infos sciences avec des rendez-vous qui se passent près de chez vous et que vous voulez faire connaître aux auditeurs. Suggérez-nous des thèmes d'émissions.
que vous aimeriez voir abordés dans La Tête au Carré. Soyez drôles, méchants, curieux et surtout scientifiquement absolument irréprochables. Nous diffuserons vos messages tous les jours à l'antenne. Un numéro de téléphone donc à composer pour le répondeur de La Tête au Carré, le 01 56 40 69 47. 01 56 40 69 47. Et donc nous attendons avec impatience que vous nous mettiez à votre tour La Tête au Carré. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidal.
Affaire sensible dans un instant. De quoi on va parler aujourd'hui Fabrice?
L'affaire des Irlandais de Vincennes, c'était en 1982, et me dites pas encore une fois, j'étais pas né. Hein.
Bon, alors ça vous énerve hein.
Un peu. Il s'agit de l'arrestation de trois personnes à Vincennes présentées comme des terroristes, qui n'étaient pas plus terroristes que vous et moi, en tout cas qui ne préparaient aucun attentat en France. C'est ce qu'on appelle une grosse bévue. Notre invité, ce sera le journaliste Edoui Plenel, qui avait révélé l'affaire à l'époque des faits. C'était dans le Monde.
Merci Fabrice, à tout à l'heure, 15h.